Bonjour tout le monde et bienvenue à une balado-diffusion du bulletin GP. Mon nom est Abdou Sall et je vous accueille à cette émission d'après-course du Grand Prix d'Arabie Saoudite 2024, deuxième épreuve du championnat du monde de Formule 1. Si jamais vous entendez de bruit de fond en arrière, c'est parce que je suis en train de regarder un match. Je vais pas vous le cacher, c'est le deuxième enregistrement que je fais parce que le premier a été corrompu. L'audio était saturé, donc ça va sonner moins naturel que ce que c'était la première fois. Alors, sans plus tarder, parce que je vais vous donner les résultats du Grand Prix. Donc, victoire de Max Verstappen. Donc, avec 13 secondes d'avance sur Sergio Perez sur l'autre Red Bull, Charles Leclerc finit 3e, Oscar Piastri 4e, Fernando Alonso 5e sur la Aston Martin, George Russell 6e, Ollie Burman qui a remplacé Carlos Sainz qui est malade 7e, Lando Norris 8e, Lewis Hamilton 9e et Nico Hülkenberg complète le top 10 avec 1 point. On a perdu 2 pilotes. Pierre Gasly, dans le premier tour après un ennui de boîte de vitesse, et Lance Stroll qui a terminé dans le mur au 6e tour. Pour les évaluations, je pense que ça aurait été facile de dire les mentions honorables parce que je pense que j'ai jamais vu autant une unanimité. Ollie Burman et la performance de ce Grand Prix. Pour avoir remplacé Sainz à pied levé. Mais sinon, les mentions honorables, il y a Kevin Magnussen, je vais expliquer pourquoi, et Esteban Ocon aussi, dans des circonstances un peu très différentes que des deux. Contre-performance, je vais y aller avec Lance Stroll, pour l'avoir mis dans le mur, et Daniel Ricciardo, j'en parlerai pas un peu en plus, mais je vais le dire maintenant, absent. Et la seule fois où on l'a vu, ben, c'est quand il a fait un tête-à-queue au virage 2 alors qu'il était loin derrière le peloton. Donc, c'était pas beau à voir. Et le moment cocasse, c'est la radio de Lance Stroll après qu'il l'ait terminé dans le mur. Il dit à son équipe, « Je suis dans le mur. » L'ingénieur lui dit, « Peux-tu ramener la voiture? » Et Stroll répond, « No, I'm in a fucking wall. » Et ce qui est impressionnant, c'est qu'on a vu tout ça en direct. On a vu Stroll dans le mur en direct. L'action s'est posée. Donc, probablement que l'ingénieur de piste n'a pas regardé les écrans, mais il aurait dû le savoir. Donc, c'était juste quelque chose de drôle. Et peut-être même notre premier soundboard radio de l'année. Ça aurait été facile de commencer avec Max Verstappen et dire à quel point il était dominant. Félicitations à son 7e podium et tout ça. Mais la vraie vedette de ce Grand Prix est le jeune pilote de 18 ans de Essex, dans la région de l'Essex en Angleterre, Oliver Burman ou Ollie Burman, parce que à son premier Grand Prix avec Ferrari, en étant le 3e plus jeune pilote de l'histoire de la Formule 1 à participer à un Grand Prix et en étant le 3e, en étant le plus jeune pilote à participer à un Grand Prix de Formule 1 pour Ferrari, il l'a très bien fait. Il s'est qualifié 11e, il était à 4 centièmes d'être dixième et d'éliminer un septuple champion du monde en Lewis Hamilton. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant. Il a eu une heure de temps pour s'acclimater avec la voiture, avec les essais libres, mais qui a été, entre autres, dérangé par l'accident de Zhou Guanyu durant cette séance. Donc, il a perdu du temps de roulage. Et il a été très propre aujourd'hui, samedi. Il a été très propre. Certes, il dit que la voiture de sécurité est arrivée trop tôt pour lui parce qu'il sentait qu'il pouvait aller encore plus loin avec les pneus tendres. Je pense qu'il était quoi, un des deux pilotes à partir avec la gomme tendre. Alors, il a bien fait. Il en plus, il a réalisé des dépassements sur Tsunoda. Je crois qu'il a aussi dépassé Guan Yu et Nicole Hülkenberg. Et il a gardé sa propre. Pas d'erreur, rien. Donc, oui, il a 18 ans, mais c'est comme si c'était une conduite très mature de sa part. Alors, je sais qu'en plus, c'est un pilote qui a énormément de potentiel, a fini sixième lors de sa première saison en Formule 2, a fini troisième en Formule 3 en 2022, est un champion de la Formule 4 allemande et italienne en plus. Donc, il a du potentiel et Ferrari peut être très contente d'avoir vu l'étendue de son talent sur un Grand Prix. Évidemment, il y a cette possibilité de le voir chez Haas. Il y en a beaucoup qui le voient chez Haas, soit à la place de Nico Hülkenberg ou de Kevin Magnussen. Le contrat des deux pilotes se terminant possiblement à la fin de la présente saison. Donc, ça va être assez important. Je pense que ce qu'il a fait et probablement ce qu'il va réaliser en Formule 2 cette année. Oublions Bahreïn parce que c'était juste off de la part de Prema au total. Mais Berman a vraiment prouvé que il va falloir porter attention à ce jeune pilote. Alors, et en plus, même dans le debriefing post-Grand Prix à la radio, il disait ouais, j'aurais aimé ça être. Il était content, mais il aurait pu être. Il aurait pu continuer plus longtemps avec la gomme tendre. Et évidemment, je pense qu'il commençait vraiment à sentir que Lewis Hamilton et Lando Norris s'amenaient avec les pneus tendres en fin d'épreuve. Donc, mais il a tenu le coup. Il a été en mesure de garder un écart assez important pour ne pas que ces deux pilotes soient en mesure d'avoir le DRS. Donc, vraiment, rien à redire sur la performance de Berman. Et si vous voulez voir en action en Formule 2, ben la prochaine épreuve, c'est dans deux semaines à Melbourne, en même temps que le Grand Prix de Formule 1. Et en plus, Berman a remplacé Carlos Sainz qui, lui, souffrait d'appendicite. On a retiré son appendice très rapidement. L'Espagnol est revenu à temps pour regarder son remplaçant bien faire. Et je crois que j'ai rien à redire. C'était vraiment une très bonne première impression de la part du jeune pilote de 18 ans. Donc, vraiment content. On va parler de Max Verstappen. Encore là, j'ai rien à redire. Il a été dominant. Il n'a pas réalisé, par contre, un autre grand chelem parce que non seulement Charles Leclerc a obtenu le point bonus pour le meilleur tour en course, je pense que son meilleur tour était dans le dernier en plus. Et Lando Norris a mené l'épreuve parce qu'il ne s'était pas arrêté lorsque la voiture de sécurité était présente. Mais Verstappen s'est tout de suite débarrassé de Norris et n'a jamais été inquiété par la suite. Donc, c'est un centième podium pour Verstappen en Formule 1. Et en plus, c'est fou de réaliser que encore son premier podium en Formule 1, ben, c'était en même temps sa première victoire lors du Grand Prix d'Espagne 2016. Et en plus de ça, ben, Verstappen, avec sa victoire, a égalé l'ancienne marque qui a été établie par Sébastien Vettel en 2013 avec 9 victoires consécutives. Et si jamais il gagne en Australie dans 2 semaines, il pourrait égaler la propre marque qu'il a établie la saison dernière au Grand Prix d'Italie. Donc, il serait sur une séquence de 10 victoires consécutives, 2 fois plutôt qu'une. Alors, c'est fou de constater la domination que Verstappen a. Il est en train de réécrire le livre d'histoire par lui-même et on ne sait pas quand est-ce qu'il va arrêter parce que non seulement il est encore jeune, mais bon, à part peut-être la guerre civile qui est à l'intérieur de Red Bull en ce moment, ben Verstappen est complètement concentré sur son pilotage, comme il le dit. Alors, il n'y a rien qui peut l'arrêter en ce moment. Pour Sergio Perez, qui finit deuxième, un autre doublé pour Red Bull. Ça a été une bonne course. C'est bien battu contre Charles Leclerc au départ. Il a dépassé. Et peut-être le seul point négatif de son Grand Prix, c'est qu'il s'est pris une pénalité de 5 secondes pour sortir aux plus dangereuses. Lorsque la voiture de sécurité est rentrée, Perez s'est arrêté et il est ressorti devant Fernando Alonso, qui, lui, s'amenait pour rentrer dans le box d'Aston Martin pour effectuer son arrêt au puits. Mais il a tout de même été en mesure de... il a vraiment été en mesure de... Comment je dirais ça? De se créer un écart de 5 secondes pour consolider sa deuxième place face à Charles Leclerc. Mais en même temps, cette Red Bull RB20, pour l'instant, est une vraie fusée. Donc, vraiment très content de la performance de Perez, qui apprend peut-être pour la... À part peut-être pour la sortie au puits, n'a pas fait d'erreur en piste. Et s'il continue comme ça, peut-être qu'il va donner un argument de taille pour qu'il garde son volant pour la saison 2025. Mais encore là, on est trop tôt dans la saison pour dire des trucs comme ça. Je sais que le regard va être beaucoup porté sur RB, mais Perez, s'il continue comme ça, il va donner un sérieux mal de tête à Red Bull. Leclerc finit troisième. C'était une bonne performance. Il ne pouvait rien faire de plus. Mais derrière, il y a Oscar Piastri qui finit quatrième. C'est un bon résultat pour McLaren. Cependant, il a quand même passé plusieurs tours derrière Lewis Hamilton. Et il a tenté de le dépasser à plusieurs reprises, mais ça n'a jamais fonctionné. Et non seulement ça, il finit quatrième, mais je pense qu'il aurait peut-être pu juste se débarrasser de Hamilton comme ça, mais... et puis, j'aime bien aussi ce qu'il a écrit sur les réseaux sociaux en disant qu'il est devenu maintenant un spécialiste de l'aileron arrière de Mercedes. Et je suis sûr qu'en ce moment, au moment où j'enregistre pour une deuxième fois cet épisode, il doit être probablement en train de rêver à l'aileron arrière de Lewis Hamilton. Et sûrement... Il est en train d'y penser en ce moment, avant, d'ici le Grand Prix d'Australie, sa course locale. Mais c'était le mieux qu'il puisse faire. Même chose aussi pour Lando Norris. Disons qu'une stratégie, la stratégie de le laisser en piste lors de la période de la voiture de sécurité. Est-ce que c'était justifiable? Il y avait un certain rythme, mais il n'y a rien d'autre qu'il pouvait faire. Par contre, le point contentieux de ce Grand Prix provient justement de Norris et de son départ. Parce qu'on l'a vu à la reprise, même lui, il le dit, même les commissaires l'ont dit, il a sauté le départ. Il a fait un faux départ. Le seul truc qui l'a sauvé, c'est que le transpondeur ne l'a pas détecté. Ce qui veut dire que Norris s'en est tiré, il a été sous enquête et on n'a pas donné de pénalité parce que dans le règlement, il y a une certaine tolérance au niveau des faux départs. Alors... C'est ce qui l'a sauvé, mais je pense que on parle des limites de la piste. Ça, c'est les commissaires sont intransigeants là-dessus. Mais au niveau des faux départs, parce que je pense qu'il y a plusieurs technicalités aussi, surtout avec le transpondeur. Je comprends la FIA d'avoir un certain niveau de tolérance quant aux faux départs. Certes, c'est totalement différent de. Ça doit être totalement différent des faux départs en athlétisme. Mais Norris en est bien sorti. Puis je peux comprendre aussi la réaction des fans de dire mais pourquoi il n'est pas pénalisé? C'est noir et blanc. Mais dans le règlement, il est spécifié clairement qu'il y a un certain niveau de tolérance pour dédouaner un pilote. Mais au final, quatrième et huitième pour McLaren, c'est bien. Ça aurait pu être mieux pour Norris. Et Piastri, au moins, a fait le maximum nécessaire, même si, encore une fois, il doit penser à l'aileron arrière de Lewis Hamilton. Sinon, un des pilotes qui a animé ce Grand Prix, autre et qui mérite la mention honorable, c'est Kevin Magnussen. Magnussen, au classement, finit 12e. Il n'y a rien d'impressionnant quand on regarde sur papier, surtout que quand même, il finit loin. Mais c'est parce que, dans un premier temps, il a eu deux pénalités de 10 secondes. La première pour avoir causé un contact avec Alex Albon alors qu'il essayait de dépasser le pilote Williams. Et l'autre pour avoir dépassé Yuki Tsunoda hors des trajectoires de la piste. En fait, quand il a complété son dépassement, il est allé hors piste. Et ça, c'est carrément interdit. Et non seulement ça, mais c'est que cette pénalité a été complètement modifiée plus sévèrement parce que avant, ce genre de pénalité, c'était 5 secondes parce que les pilotes pouvaient dépasser hors piste et au lieu de redonner la position automatiquement au pilote, ils prenaient la pénalité de 5 secondes et allaient tout simplement créer une avance pour garder leur position. Donc, les commissaires, la FIA, a décidé de tout simplement doubler le temps de pénalité pour 10 secondes. Comme ça, ça va leur forcer à leur remettre la position pour éviter justement de se prendre un 10 secondes. Maintenant, là où Magnussen mérite la mention honorable, c'est au niveau de sa conduite. Une conduite défensive. Une conduite défensive pour permettre à Nico Hülkenberg qui était devant et qui ont permis justement de se créer un gap pour que Hülkenberg, qui lui aussi ne s'était pas arrêté durant la voiture de sécurité, puisse avoir un buffer pour s'arrêter et revenir en 10e place. Donc, Magnussen a fait un travail défensif pour empêcher les Tsunoda, Ocon, Albon de prendre sa place et aller pourchasser Hülkenberg. Et ça, c'est un excellent travail d'équipe. Vraiment, ça a été très bien fait. Et un des moments que j'ai adoré, c'est lorsque Tsunoda a dépassé Magnussen sur la ligne de départ arrivée. Mais Magnussen a été capable de reprendre sa position à la chicane et de continuer son rôle défensif. Alors, et c'est ça aussi du travail d'équipe. Ça a vraiment été très important. Certes, c'est une 10e place, c'est un point, mais dans les circonstances, un point veut dire des millions. Et pour Haas, quand même, ça va être super important compte tenu aussi que ça a été compliqué la saison dernière. Et je trouve que la voiture est meilleure que l'année passée, que l'année dernière, ça c'est clair. Et je crois qu'ils ont vraiment, pour l'instant, été en mesure de régler leurs problèmes d'usure de pneus. Et ça s'est vu. Maintenant, est-ce que ça va être de continuer comme ça? Mais la tendance se maintient et je crois que ça a l'air d'être quelque chose de positif. En plus, qu'ils ont un bon rythme de course. Relativement un bon rythme de course. Alors, vraiment, ça a été un très bon travail de la part de Hülkenberg. Surtout après son ennui de pompe à essence durant la Q2 vendredi. Et de transformer ça en points, c'était vraiment bien. Alors, c'était excellent. Et Kevin Magnussen a tout fait pour l'aider et de penser à l'équipe en plus. C'était quelque chose de bien. Mais ça a provoqué aussi la frustration de RB qui va porter plainte auprès de la FIA pour les tactiques de lenteur de Magnussen, suggérant que c'est anti-sportif. Parce que l'équipe pense que Magnussen est allé volontairement hors piste pour garder sa position devant Yuki Tsunoda et de créer un train de voiture. Mais je dois dire que Tsunoda avait juste à compléter le dépassement qu'il avait presque réussi sur Magnussen et probablement on en parlerait peu, mais je pense que c'était vraiment une bonne défensive de la part de Magnussen. Et j'ai plus l'impression que c'est de la frustration envers eux. Ben en fait, c'est de la fausse frustration parce que ils sont frustrés de ne pas avoir été en mesure de capitaliser sur les pénalités de 30 ans de Magnussen. Et ils veulent trouver un moyen de dévier le problème parce que on a beaucoup applaudi Sergio Perez pour sa tactique défensive contre Lewis Hamilton au Grand Prix d'Abu Dhabi 2021. Ça a été presque la même chose qu'on a vu avec Magnussen. Certes, peut-être le point contentieux, c'est le dépassement à l'extérieur sur Tsunoda, mais il a été pénalisé. Il a été pénalisé de 10 secondes. Ça a été carrément mis dans les règles. Maintenant, c'était à Tsunoda et à RB de faire en sorte de le dépasser et d'essayer d'aller pour chasser Hülkenberg et Zhou Guan Yu, entre autres. Donc, je pense que c'est une fausse frustration de la part de RB. Williams est aussi frustré plus pour le contact avec de Magnussen à l'endroit d'Albon, mais c'était 10 secondes. Je pense là-dessus on aurait donné 5, ben ça aussi c'est nouveau. Donc, je pense qu'on a décidé de vraiment serrer un peu la vis sur les sanctions aussi. Alors, je crois que Magnussen a fait son travail. RB a été frustré. Donc, c'est juste. Moi, je pense, encore une fois, c'est de la fausse frustration de la part de RB et un très bon travail de la part de Magnussen pour permettre à Hülkenberg d'aller chercher un point. Même si cette équipe n'a pas marqué de points, je dois lever mon chapeau à Esteban Ocon parce que Ocon, certes, encore une fois, la Alpine était une des voitures les plus lentes, mais Ocon a été en mesure de se battre contre les Tsunoda, Magnussen, Albon au milieu du peloton. Et à un moment donné, Tu sais, avec Hülkenberg et Joux qui devait s'arrêter, Magnussen qui devait servir sa pénalité de Mathusalem, ça aurait été... Et Ocon était dans une position d'aller chercher cette dixième place. Mais même s'il ne marque pas de points et qu'il finit 13e, je crois qu'au moins cette performance de Ocon est un baume dans ce début de saison misérable, catastrophique chez Alpine, avec tous les changements de personnel qu'il y a eu récemment. Je crois que c'est que il y a au moins Alpine peut en retirer un certain positif, même si l'équipe a perdu Pierre Gasly dès le premier tour à la suite du problème de boîte de vitesse détecté sur le tour de formation. Alors, au moins il y a ça. Je crois qu'Ocon mérite. Ocon mérite des fleurs aussi pour sa performance, même si c'est une 13e place. Mais quand on regarde les circonstances, une voiture qui est très lourde, des problèmes d'aérodynamique et un problème de personnel aussi qui bouge, ça au moins, c'est un côté positif de cette fin de semaine à Jeddah, puis ça a été clairement mieux qu'au Bahreïn. Par contre, j'ai donné les fleurs à Ocon. Le pot, je vais le donner à Lance Stroll, parce que disons que c'était pas édifiant, hein. Être éliminé au sixième tour après avoir tapé le mur au virage 23 et avoir terminé sa sortie dans le mur. C'est pas la première fois qu'un Lance tape le mur à cet endroit. Je pense que jeudi, aussi, il avait tapé à ce même endroit, mais sans grosses conséquences comme on l'a vu en course. Je pensais que Liverpool l'avait marqué, mais non. C'était hors-jeu, mais tout comme le hors-jeu, parlant de hors-jeu, Stroll était déjà hors-jeu dès le sixième tour. Et c'est dommage, parce que il avait... Ça revient justement à ce problème d'inconstance. Stroll avait très bien fait au Bahreïn. Il a quand même fini... Il a fini dixième, mais il s'est battu pour cette position. Là, il est éliminé alors qu'il était 9e. Mais en plus de ça, il était pourchassé par Yuki Tsunoda et Oliver Bowman. Alors, c'est vraiment décevant de la part de Stroll de le voir éliminé de cette manière, aussitôt. Et là, c'est sa 8e saison. Tout le monde va commencer à se poser des questions. Et personnellement, je crois qu'il va avoir une discussion inconfortable du côté de Lawrence Stroll pour dire qu'est-ce qu'on fait avec Lance, parce que ça peut pas continuer comme ça. Alonso ne peut pas traîner cette voiture dans les points et pour des podiums course après course par lui-même. Il faut que Lance soit mieux, on monte de niveau. On attend ça depuis qu'il est en Formule 1. Parce que oui, il a un talent, Lance, il faut pas l'oublier, il y a quand même un podium, mais c'est sa 8e saison, puis ça fait encore des erreurs comme celle-là. Ça peut arriver. Et ça peut arriver aussi. Un exemple parfait, Nico Hülkenberg en 2017 et en 2018 avec Renault au Grand Prix d'Azerbaïdjan, alors qu'il pouvait carrément aller chercher un top 5 ou bien même un podium compte tenu la nature que ces deux Grands Prix ont eu. Hülkenberg est bien plus expérimenté que Stroll, puis il a fait la même erreur, puis il s'en est voulu. Donc, on demande juste ça, de la constance du côté de Lance Stroll. Donc, je pense que j'ai fait le tour de des points globaux pour ce Grand Prix d'Arabie Saoudite. Mais il n'y avait pas que la Formule 1 qui est en action à Jeddah. Il y avait aussi la première course de la saison 2 de la F1 Academy, ce championnat 100% féminin organisé par la Formule 1 même. Donc, c'est 16 pilotes qui se battent pour la qui se battent pour la victoire. Et évidemment, l'attention était portée vers Dorian Pain, qui est pilote principalement dans les courses d'endurance, peu importe, elle roule en LMGT3 avec Iron Dames au championnat du monde d'endurance, ainsi que je crois qu'elle se concentre, principalement cette saison sur le championnat du monde d'endurance, en plus de d'être avec Prema et l'équipe Mercedes, parce que ça aussi c'est une nouveauté dans cette série, c'est que les dix équipes de la Formule 1 sont représentées sur la grille et il y a cinq autres pilotes qui sont invités par des marques ou bien par la série même. Donc, dans le cas de Jessica Edgar, elle fait partie de l'équipe F1 Academy. Et il y a ce qu'on appelle un wild card, donc une pilote invitée. Et c'était Rima Djoufali, pilote d'Arabie Saoudite, qui a bâti sa propre équipe et qui l'a amené pour participer au Grand Prix d'Arabie Saoudite. Donc, c'était une bonne chose. Pour les top, il y a deux courses, avant les qualifications de la Formule 1 et l'autre pendant la course. Et la course 1, sans surprise, a été remportée par Dorian Pain, qui a mené de bout en bout, mais elle a eu de la pression en fin d'épreuve sur Abby Pulling, qui est représentée par Alpine, alors que Manchester City vient de marquer. Merde. Pulling a fini deuxième et Maya Veug, qui représente Ferrari, a complété le podium. Quatrième, c'est Chloe Chambers de Haas. Cinquième, Bianca Bustamante, qui représente McLaren, mais dont l'attention était portée sur le fait qu'elle a coupé les virages à plusieurs reprises. Tina Hausman, qui représente Aston Martin, sixième. Aurelia Nobles, qui fait partie de l'Académie Ferrari, mais qui roule pour Puma, septième. Lola Lovenfoss, qui représente Charlotte Tilbury, la marque de cosmétiques, 8e, 9e, Abda Al-Kubaisi, 9e, et elle et sa sœur Amna font partie de la F1 Academy, et 10e, Carrie Schreiner complète le top 10. Donc, sans surprise, Dorian Pain a gagné, mais l'attention est encore aujourd'hui le point de discussion, c'est la course 2. Dorian Pain a remporté l'épreuve devant Abby Pulling et Maya Veug. Ça, c'est le top 3. Cependant, Pain, en franchissant la ligne d'arrivée, a continué à rouler et elle a fait un tour supplémentaire jusqu'à ce que les commissaires décident de brandir le drapeau rouge pour la forcer à ralentir parce que elle roulait à vitesse de course, alors que normalement, lorsque le drapeau à damier est agité, vous devez ralentir. Et ce n'est pas ce que Dorian Pain a fait. Apparemment, il y avait des problèmes de communication radio entre elle et Prema, qui est l'équipe qui soutient Pain et Mercedes dans ce championnat. Et ça a coûté cher parce que Dorian Pain a perdu sa victoire. C'est une pénalité de drive-thru qui convertit en 20 secondes de pénalité. Alors, elle a perdu la victoire. Elle a chuté au 9e rang. Et c'est Pooling qui a gagné l'épreuve devant Maya Vug et Nerea Marti qui est représentée par Tommy Hilfiger. Donc, ça a été... Donc, Pain finit 9e et marque donc 2 points. Et évidemment, c'est un sujet de controverse parce qu'on se demande est-ce que ça a été, la pénalité est sévère. Par contre, je suis totalement d'accord avec la décision de... Je suis totalement d'accord avec la décision des commissaires de la pénaliser. C'est juste, est-ce que ça aurait été... Est-ce que, peu importe la manière, je pense qu'il y avait pénalité, c'est dangereux parce que tu peux avoir des... Parce que il peut y avoir des commissaires de piste. Il peut y avoir des commissaires de piste. Alors, c'est ça qui arrive. Néanmoins, je ne suis pas surpris de voir Pain retrouver la tête du championnat d'ici la prochaine épreuve à Miami. Par contre, s'il y a une pilote qui m'a impressionné, c'est Lia Block. Évidemment, bon, c'est la fille du regretté Ken Block, mais elle est spécialisée principalement dans le rally et le rallycross. Elle a très, très peu d'expérience en monoplace. Elle a fait une ou deux courses, je crois, avant la F1 Academy pour se préparer. Mais la F1 Academy, c'est sa première compétition officielle. Et elle a été impressionnante. Oui, elle a fait un tête-à-queue dans la course 1, mais elle était dans le top 10. Elle se battait constamment pour des positions dans le top 10. Et même... Lors de la course 2 aussi, elle était à cette position. Malheureusement, parce que Lola Lavinfos est revenue en piste de manière très dangereuse et Block l'a tapé sans qu'elle le... Ben, évidemment, c'est pas de la faute de Lia Block, mais elle a perdu son aileron et sa course a été ruinée. Mais elle a été pénalisée pour vitesse excessive dans la ligne des puits. Puis je pense qu'elle avait une autre pénalité aussi. Mais ça, c'est... Elle va s'habituer au fur et à mesure avec les règlements de monoplace, les limites de vitesse aussi. Mais ça se règle quand même. Alors, mais vraiment... Globalement, j'ai été impressionné par la performance de Lia Block. Là, donc, je vais vous donner le classement des pilotes après la ronde 1 à Jeddah. Abby Pooling mène le championnat avec 44 points. Maya Vug est deuxième avec 33 points. Dorian Pain est troisième avec 32 points. Bianca Bustamante, qui représente McLaren, est quatrième. Et Nerea Marti de Tommy Hilfiger est cinquième. La prochaine épreuve sera à Miami au début du mois de mai, les 2 au 4 mai. Et il y a sept fois où la F1 Academy sera... en fait, les sept épreuves de la F1 Academy seront... lors de Grand Prix de Formule 1. On a déjà Jeddah, il y aura Miami, mais aussi Barcelone, Zandvoort, Singapour, Lausanne au Qatar et Yas Marina pour le Grand Prix d'Abu Dhabi. Et en plus, les courses sont disponibles gratuitement sur la chaîne YouTube de la F1 Academy, les qualifs et la course. Donc, c'est quelque chose de super bon. C'est une très bonne stratégie. Et on le voit aussi avec la Ligue professionnelle de hockey féminin. Les matchs sont disponibles sur YouTube, même si vous avez les diffuseurs, comme par exemple F1 TV ou bien TSN Plus au Canada. Mais de rendre ça gratuitement disponible pour tout le monde, c'est comme ça que tu permets de faire découvrir ça, ton sport. Et avec le sport féminin qui est en montée incroyable, surtout depuis le retour au jeu pendant la pandémie. Il a été temps de donner de la visibilité à ces femmes qui sont inspirantes et qui ont vraiment et qui peuvent inspirer des générations futures aussi. Alors vraiment chapeau à la F1 Academy d'avoir écouté les fans et de rendre ça disponible pour tout le monde. Il n'y avait pas seulement que la F1 Academy, il y avait aussi la Formule 2, donc la deuxième manche. Et évidemment, Olli Berman étant en Formule 1, il ne pouvait participer à la course de Jeddah, aux courses de Jeddah, pardon. Donc, il était parti en pole position et une pole position vous donne 2 points. Il les a perdus, évidemment. Il est donc officiellement dernier au championnat. Mais, évidemment, c'est pas quelque chose qui va le déranger parce qu'il a tout le temps pour rattraper ses points pour rattraper cette saison. La course sprint a été remportée par... En vérité, c'était supposé être Richard Virchow sur Trident qui devait gagner. Mais Trident a été disqualifié pour une irrégularité avec la pédale d'accélération, laissant croire qu'il y avait un certain avantage. Ce qui veut dire que Virchow a perdu sa victoire et c'est Dennis Hauger qui l'a hérité. Paul Aaron finit deuxième et Enzo Fittipaldi termine troisième. Dans la course 2... Dans une fin de course assez âprement disputée, Enzo Fittipaldi a remporté l'épreuve et surtout avec un double dépassement magnifique sur Juan Manuel Correa et Armory Cordell par l'extérieur en plus. C'était très beau à voir. Allez voir les faits saillants de la course principale. Ce dépassement était magnifique, était osé, risqué, mais bien calculé. Donc, Fittipaldi l'emporte devant Kushmany et Dennis Hauger. Donc, quatrième, c'est Jack Crawford et Armory Cordell complète le top 5. Au classement des pilotes, Zane Maloney, même si ça a été une course un peu plus discrète, et reste en tête avec 47 points. Il a marqué des points dans les deux courses de Jeddah. Enzo Fittipaldi maintenant monte en deuxième place après son double zéro au Bahreïn. Dennis Hauger est troisième. Paul Aaron est quatrième et Kushmany est cinquième. Évidemment, le regard était porté sur Andrea Kimi Antonelli. Il a fini sixième. Marque donc 8 points et est 10e au classement des pilotes. Donc, c'est 2 points de plus que Armory Cordell. Et la prochaine épreuve de Formule 2 sera à Melbourne dans 2 semaines avec la Formule 3 et le Grand Prix d'Australie. D'ailleurs, je vais vous donner le classement des pilotes de Formule 1. Max Verstappen est premier avec 51 points. Sergio Perez est deuxième avec 36 points. Troisième, c'est Charles Leclerc avec 28. Quatrième, George Russell avec 18. Oscar Piastri est cinquième avec 16. Carlos Sainz est sixième avec 15 points, donc son podium au Grand Prix de Bahreïn. Fernando Alonso est septième avec 12 points, à égalité avec Lando Norris. Neuvième, c'est Lewis Hamilton avec 8 points. Et dixième, Oliver Berman avec ses 6 points du Grand Prix d'Arabie Saoudite. Et ensuite, on a Nico Hülkenberg et Lance Stroll qui ont 1 point chacun. Au classement des constructeurs, Red Bull reste en tête avec 87 points. 49 points pour Ferrari en deuxième place. McLaren est troisième avec 28 points. Mercedes est quatrième avec 26 points. Aston Martin a 13 unités et Haas, avec la 10e place de Hülkenberg à Jeddah, est 6e. Donc Williams, Sauber, RB et Alpine n'ont toujours pas de points après 2 courses. C'est ce qui complète cet épisode du Bulletin GP. Notre prochain épisode d'après-course sera dans 2 semaines pour revenir sur le Grand Prix d'Australie. Mais on a un épisode qui s'en vient jeudi. On va revenir sur la saison 6 de la série Drive to Survive avec Anna Maria. Et ensuite, un des prochains épisodes, jeudi d'après, on va parler de Alpine et de leur début de saison un peu plus difficile. On est disponible sur toutes vos plateformes de podcast préférées, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast et partout où le Bulletin GP est disponible sur vos plateformes préférées. On a aussi bulletingp.com où on a d'ailleurs rédigé un guide complet sur la saison 2024 d'IndyCar. Donc c'est bulletingp.com, vous pouvez aller le lire. Et d'ailleurs, au moment où j'enregistre la course... Le Grand Prix de Saint-Pete est sur le point de débuter, donc je vous souhaite une bonne saison d'IndyCar à ceux et celles qui regardent ça. Et évidemment, on est disponible sur Facebook, Twitter, Instagram et Threads @lebulletingp. Sans oublier, entre autres, le groupe Facebook La Monoplace, où vous pouvez parler de Formule 1 et d'autres compétitions automobiles sur Facebook dans le groupe, et c'est ouvert à tous. Alors... merci de nous avoir écoutés. Mon nom est Abdoussal. On continue toujours de rouler avec le Bulletin GP et on se retrouve jeudi pour Drive to Survive et dans 2 semaines pour l'après-course du Grand Prix d'Australie. Portez-vous bien, faites attention à vous et à la prochaine!